Donc bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être venus et venus nombreux donc pour cette deuxième table ronde de La Mounière, la maison des mémoires de Sète Fons. Alors très rapidement, La Mounière, c'est un lieu qui a comme fil conducteur la notion de déplacement de population et les valeurs d'accueil et d'hospitalité, et qui a parmi ses objectifs aussi la volonté d'apporter des clés de compréhension du monde dans lequel on vit. Et d'où l'idée de ces tables rondes que l'on a vocation à reproduire plus régulièrement encore. Alors la table ronde d'aujourd'hui qui nous réunit, elle a pour objet de faire dialoguer les notions d'exil et d'hospitalité avec nos invités. Donc Monsieur Grégory Tuban, qui est docteur en histoire et qui est auteur d'un ouvrage paru en janvier, Camps d'étrangers. Le contrôle des réfugiés venus d'Espagne, 1939-1944, si je ne me trompe pas. Et Annalisa Landaro, qui est politologue, chercheuse au CNRS et qui s'est beaucoup intéressée aux questions de politique migratoire et à la notion de frontière. Je vous prie d'excuser Monsieur Leblanc, qui a dû se décommander ce matin en raison d'un empêchement familial, et j'espère que nous aurons l'occasion de l'accueillir une prochaine fois. Ses ouvrages sont en vente dans l'accueil du Florida, puisque le tracteur savant a bien voulu venir participer à cette table ronde et proposer les ouvrages à la fois de nos intervenants, mais aussi des ouvrages plus larges sur cette thématique. Et je voudrais également donc remercier Sophie Pasquale qui a répondu présente. Sophie Pasquale, que j'en suis sûre certains connaissent parmi vous, qui a travaillé longtemps aux archives départementales du Tarn-et-Garonne, et notamment beaucoup sur le fonds lié à la mémoire espagnole, et qui est aujourd'hui au service enfance-famille du département, et qui, pour introduire cette table ronde, s'est proposée pour reprendre l'histoire de l'immigration en Tarn-et-Garonne. Donc je vais lui laisser la parole et ensuite animer cette table ronde. Merci.
Donc, le Tarn-et-Garonne a hérité de son passé protestant, très marqué par les guerres de religion. Et il a été en constante recherche de main-d'œuvre dès le deuxième tiers du 19e siècle. Ça a toujours été une refuge et d'immigration. Donc, dès le 19e siècle, commence une émigration politique. Tout d'abord avec un flux important de réfugiés espagnols, soit libéraux qui avaient été inquiétés pour leurs opinions, soit carlistes qui arrivent dès 1814 et qui continuellement tout au long du 19e siècle vont continuer à arriver donc en Tarn-et-Garonne jusqu'à un point tel qu'entre 1873 et 1876, 600 d'entre eux s'installent à Beaumont-de-Lomagne. Il y a également quelques Polonais qui arrivent dès 1831 et jusque dans les années 1864, suite aux insurrections en Pologne. Leur intégration est facilitée car il s'agit essentiellement d'une élite exerçant majoritairement dans les professions libérales. Par exemple, on trouve trace d'un médecin à Grisolles ou d'un professeur de mathématiques à Castelsarrasin. Parallèlement, se met en place une émigration économique liée d'une part aux grands travaux, donc le travaux de terrassement avec le creusement de canal latéral à la Garonne, puis l'établissement du chemin de fer du Midi et la construction du chemin de fer d'Orléans, avec un point d'orgue de population étrangère entre 1881 et 1886, et on retrouve énormément d'Espagnols, de Suisses, de Belges, d'Allemands et d'Italiens. Les Espagnols, à cette époque-là, forment 60 à 70% des immigrés réguliers entre 1891 et 1911. La Première Guerre mondiale amène un flot important de réfugiés, parmi lesquels on dénombre de nombreux étrangers, un contingent significatif de Belges, puisque en 7 mois, arriveront 4 000 Belges qui tarderont à repartir, hein, puisque en juin 19, le gouvernement belge diffère encore le rapatriement des ressortissants originaires de Flandre occidentale. On trouve également des Serbes, 800 soldats et officiers arrivés à Montauban le 21 août 1916, et dès 1915 arrivent des jeunes Serbes isolés qui sont installés dans des familles tarn-et-garonnaises qui les accueillent. Il y a également des classes entières qui sont délocalisées. On trouve trace d'une classe de 29 élèves serbes qui sont arrivés avec leurs professeurs à l'école primaire de Beaumont-de-Lomagne. Dans une moindre mesure aussi, les Alsaciens lorrains qui sont regroupés dans la commune de Mondricou. Et parallèlement, on trouve trace des premières structures d'internement avec la création des dépôts d'internés civils ressortissants des nations ennemies. On en compte deux dans le département. Vous avez l'ancien couvent des Chartreuses à la Bastide de Saint-Pierre et l'ancien séminaire de Moissac qui accueille à eux deux plus d'un millier d'étrangers. La nécessité de remplacer les ouvriers partis à la guerre pour faire tourner les établissements travaillant à la fabrication d'obus s'impose, et là encore on trouve l'emploi de nombreux ressortissants étrangers, parmi lesquels, en particulier dans le Tarn-et-Garonne, dans le département, l'usine la plus importante, c'était l'usine Sainte-Marguerite de Castelsarrasin, qui comptait 150 gréco-turcs, 222 hélènes en 1916, 300 espagnols en septembre 17, des travailleurs coloniaux provenant d'Indochine et également des prisonniers de guerre allemands de 230 et 420 austro-hongrois en 1918. L'entre-deux-guerres est le témoin d'une immigration sans précédent. De 1921 à 1931, le nombre d'étrangers décuple. Et désormais, l'immigration fait partie d'une politique de sollicitation et d'une organisation collective. L'État passe des conventions avec de nombreux pays, tels que la Pologne, l'Italie, la Tchécoslovaquie ou la Belgique. Elle devient une immigration de masse et draine de nombreux ouvriers pour les grands travaux, là encore, reconstruction après les inondations de 1930 notamment, et surtout une forte nécessité d'ouvriers agricoles, puisque dès le 19e siècle, se pratique en Tarn-et-Garonne, qui est composée de toutes petites unités agricoles, le malthusianisme, et il y a une dépopulation qui fait qu'on a besoin d'ouvriers dans le secteur agricole. Donc l'immigration devient rurale, les deux tiers des immigrants actifs travaillent dans l'agriculture, et on constate l'arrivée massive d'Italiens qui en fait le premier groupe d'étrangers. Ils représentent en 1906 les deux tiers des étrangers du département. L'immigration politique est représentée par une petite colonie russe, surtout un nombre non négligeable de réfugiés sarrois qui fuient le nazisme entre 1933 et 1936. La guerre d'Espagne voit également arriver dans le département un flux de réfugiés civils. Dès 1936, sont créés à Montauban deux refuges, l'un au verger départemental et l'autre dans les locaux de la variante laïque. Et l'afflux massif de 1939 génère la création de centres à Caussade, à Lozère, à Sept-Fonds, ainsi que plusieurs autres à Montauban, à La Sama, à Pomponne, à la gare des tramways, etc., etc. Le camp de Jude à Sept-Fonds est créé donc et accueille à partir du 5 mars 1939 le premier groupe de 2500 miliciens. Je pense que vous pourrez nous éclairer sur cette thématique. Et ira jusqu'à un maximum de 18 000 internés au 1er mars 1939. Au sortir de la guerre, lors de la Première Guerre mondiale, le Tarn-et-Garonne accueille en 1940 et en quelques semaines des populations civiles belges et françaises réfugiées, en particulier des réfugiés de Moselle et d'Alsace-Lorraine. Et ce sont des villages entiers qui sont de ces régions-là qui sont regroupés sur les villages tarn-et-garonnais. De même, le préfet mosellan Bourra, s'installe avec son administration à Montauban. Si bien qu'au 1er juillet 1940, on compte 25 000 réfugiés belges et ce sont au total 200 000 personnes qui sont réfugiées dans le département. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, le dernier recensement de 1936 fait état de moins de 165 000 habitants. Alors que l'entrée en guerre, la communauté juive tarn-et-garonnaise comptait environ 150 à 200 personnes, Elle avoisine les 1900 personnes lors de l'année 42, selon les différents recensements. On peut imaginer même qu'ils étaient bien au-delà, hein, puisque n'apparaissent que ceux qui se sont fait recenser, bien sûr. Des solidarités se mettent en place, hein, et des réseaux d'aide sont à l'œuvre. J'ai pris pour exemple la ville de Moissac, dans laquelle se trouve la maison des éclaireurs israélites de France. Et cette ville s'est particulièrement illustrée au travers, par exemple, de son secrétaire de mairie, Manuel Darak, qui, avec l'assistance de son de sa secrétaire, a fourni des faux papiers et des cartes d'alimentation à tous les enfants du pensionnat, ainsi qu'à l'équipe enseignante. Ce sont environ 500 enfants qui ont été sauvés. Les enfants de Chata et Bouli-Simon, qui dirigeaient le centre EIF, des éclaireurs israélites de France, se battent actuellement pour faire en sorte que la ville, ce soit la ville entière qui soit élevée au rang de juste parmi les nations. Malheureusement, cet exemple positif, hein, ne doit pas nous faire oublier qu'à l'instar des autres camps d'internement, ben, le camp de Sept-Fonds servira également à l'internement des Juifs et que deux convois partiront et ce sont 84 membres de la 302e CTE dans un premier temps et puis de nombreux 211 internés civils qui avaient été raflés dans la nuit du 24 août qui partiront et qui seront envoyés à Auschwitz via Drancy. Après la guerre, donc l'immigration continue. Entre 1962 et 1968, près de 4500 rapatriés d'Algérie arrivent dans le département. Et certains d'entre eux s'installent dans l'agriculture et mettent en place la branche arboricole qui représente à présent l'une des spécificités du département. Et du coup, ça crée un appel d'air et une nécessité d'une main-d'œuvre importante qui va générer entre 1961 et 1971 des arrivées à nouveau massives d'immigrés pour la main-d'œuvre, essentiellement des Espagnols et des Marocains. C'est toujours le cas, hein, ces exploitations arboricoles sont toujours là et désormais ce sont majoritairement des Polonais, des Bulgares et des Roumains qui travaillent dans ces exploitations. Et enfin, selon le recensement de 2014, la population étrangère du Tarn-et-Garonne s'est levée à peu près à 15 000 habitants, soit 5,7% de la population totale du département, ce qui est plutôt minoré puisque l'ensemble au niveau national, on est à 6,2%. Alors, une des raisons qui a fait que la maison des mémoires de la Mounière m'a demandé d'intervenir, c'est que d'une part, j'ai travaillé pendant des années aux archives départementales où j'ai travaillé énormément sur la thématique des étrangers puisque je gérais toutes les recherches sur les étrangers, les flux migratoires au 19e et 20e. Mais désormais, j'ai un peu changé de vie et je travaille donc au service placement de la direction de l'enfance et je suis confrontée non plus aux arrivées d'étrangers d'un point de vue historique, mais à la réalité de l'instant T. Et la réalité actuelle, c'est que dans mon service, les mineurs non accompagnés représentent à ce jour environ un sixième des enfants placés en Tarn-et-Garonne, c'est-à-dire à peu près 17%. On a environ 600 enfants placés en Tarn-et-Garonne, hein, qui est un petit département, et on a plus d'une centaine de mineurs non accompagnés. Ils sont essentiellement issus d'Afrique subsaharienne, majoritairement maliens, mais on trouve des Ivoiriens, des Guinéens et des Nigérians. Une autre composante importante, ce sont des Albanais et quelques ressortissants d'Asie centrale, notamment des Bengalis et des Afghans. La grande majorité de ces jeunes sont des garçons, mais on trouve aussi quelques filles, vraiment à la marge, elles représentent, on en a trois hein, sur le contingent. Et on assiste à une accélération croissante et rapide de ces arrivées. Alors, sachant que parmi les chiffres que je vais vous citer, tous les jeunes non accompagnés ne sont pas pris en charge par le département, puisque peut-être enfin, il y a un système de répartition nationale. En 2008, donc il y a 10 ans, nous en avions 4. 2009, 10. 2010, 20. 2011, 17. 2012, 43. 2013, 31. Bon, je vous passe le... Et en 2017, nous en avons eu 169. Donc, vous voyez que la question de l'exil et de l'hospitalité a toujours été au centre de mes préoccupations professionnelles. Mais il se trouve que je me suis aussi beaucoup intéressée à cette thématique parce que, comme de nombreux Français, peut-être certainement certains parmi vous dans la salle, ce sera le cas, je suis issue de ces vagues d'immigration. Vous avez noté que je m'appelais Pasquale, donc en fait mes grands-parents sont arrivés en 1939. Ma grand-mère est arrivée enceinte et en fait un enfant en bas âge dans un convoi de républicains espagnols, convoi de civils au refuge de Caussade. Hein. Elle était enceinte alors qu'elle accouchait à Montauban. Les sages-femmes qui étaient aussi des religieuses lui ont demandé de faire baptiser son enfant. Elle n'était pas vraiment convaincue, mais ça a conditionné donc le baptême de ce bébé au fait qu'on pourrait rapatrier mon grand-père qui se trouvait au camp de Sept-Fonds. Et voilà, donc je pense que je suis un peu voilà. Vous comprendrez que c'est avec le plus grand intérêt donc que je vais écouter l'intervention de Monsieur Tuban, qui va nous éclairer particulièrement sur le contexte politique de 39, les politiques d'accueil et les réseaux d'entraide.
Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses, c'était très synthétique et très intéressant. Donc moi, je vais intervenir sur la question espagnole au regard de la thématique d'aujourd'hui. Et puis ça va intéresser, bien entendu, toutes les catégories de population étrangère qui ont été ciblées comme indésirables. Et comme vous l'avez dit, je ne savais pas qu'il y avait eu des camps pendant la Première Guerre mondiale dans le Tarn-et-Garonne, mais le terme « camp de concentration » qui fait débat dans l'espace public, hein, parce qu'en 1939, ça s'appelait comme ça. En fait, la naissance des camps de concentration, c'est durant la Première Guerre mondiale, mais pas uniquement pour les militaires, aussi pour les civils et pour les nomades. Voilà. Donc les nomades ont été internés en France durant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, l'exil républicain, je pense que tout le monde ici est concerné. Donc de 1939, hein, je vais passer vite dessus, donc à peu près un demi-million de personnes. Alors peut-être s'arrêter sur ce chiffre, parce que personne n'a le chiffre exact. Il est débattu, alors il y a un delta de 470 à 530. Mais il faut savoir que là, ce qu'on appelle la retirade, qui est un terme aussi qui peut poser débat, hein. Moi je suis pas favorable au terme retirade, c'est un terme qui est utilisé dans le champ médiatique essentiellement. C'est assez nouveau, hein, parce qu'à l'époque on parlait d'exode ou d'exil républicain espagnol et pas de retirade. Parce que dans l'idée de retirade, il y a l'idée de défaite en quelque sorte, et beaucoup de gens sont partis, hein, parce qu'ils craignaient pour leur vie, mais il y avait aussi un engagement en France et ailleurs. Et donc, ils sont pas tous arrêtés de se battre, loin de là. Bref, donc ce chiffre est difficile à cerner parce qu'il y a eu d'autres retirades, notamment vers l'Afrique du Nord, depuis les côtes levantines. Et puis la retirade, elle a continué après. Puisqu'après la fermeture de la frontière, il y a eu des réfugiés qui sont arrivés. En février 39, la République existait encore. Il y a eu des réfugiés tout au long du mois de février, de mars, d'avril, de mai. Et à partir de juin, ça commence à décroître. Mais donc il y a eu, on peut penser que ce chiffre du demi-million, et au regard des rapatriements et des sources croisées, est fiable. Bref, donc la retirade en fait symbolise ou marque la politique d'exclusion de la fin des années 30 en France. Pourquoi ? Parce que c'est l'exode le plus massif qu'a connu le pays jusqu'alors, et parce qu'aussi elle pointe les dérives prévichistes d'une partie de l'opinion, et de la classe politique, médiatique, etc., sur fond de xénophobie rampante et d'antisémitisme rampant, puisque vous l'avez signalé, le nombre croissant de réfugiés, dont les réfugiés politiques venus d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, etc., etc., vont faire naître en France l'idée de l'importation, de la montée des périls ou d'idéologie étrangère qui pourrait mettre à mal le pays, une espèce de cinquième colonne, et donc il va y avoir une montée de la xénophobie tout au long des années 30, et qui va, en 1939, pas prendre un caractère majoritaire, mais qui va s'illustrer sur pas mal de points. Faut savoir que les réfugiés de la retirade, alors je vais dire retirade, ça va être plus simple, ces réfugiés, en fait, n'auront jamais le statut, ou n'ont pas le statut de réfugiés tel que l'entendait la Société des Nations. Ils seront considérés par la France comme des asilés. Donc ça, c'est très important. Et la notion d'asile, donc la frontière, elle aurait ouverte, elle n'est pas fermée. De toute façon, ça aurait été difficile de la fermer vu les troupes militaires en ordre qui avançaient. La frontière est ouverte, mais l'accueil n'est que temporaire. Donc la France les considère comme des asilés. L'idée est que les femmes, les enfants et les vieillards sont placés dans des centres d'hébergement, mais sont astreints à une résidence, à l'échelle soit d'un lieu, en général d'une commune, ou d'un département. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas sortir réellement d'un champ. Donc c'est une astreinte à résidence, c'est une forme de contrôle. Même s'il y a une logique, effectivement, d'accueil à ce moment-là. Hein. Évidemment, les hommes en âge de se battre, alors vous avez utilisé le terme milicien, alors ce terme il est intéressant, je l'ai découvert assez tardivement, en février 39, quand les militaires, les miliciens arrivent en France, ce ne sont pas des miliciens, ce sont des membres d'une armée régulière qui s'appelle l'armée de la République. Et le fait que le gouvernement français, l'administration française, l'armée française, les appellent des miliciens, c'est-à-dire c'est à 80%, 90% miliciens espagnols, montrent qu'en fait, ils ne sont pas considérés comme des soldats d'une armée régulière, mais ils sont déjà considérés comme des vaincus. Et donc, implicitement, on le sait maintenant par des accords qu'il y a eu, etc., etc., la France, au début de 1939, a reconnu la victoire de Franco, et donc considère ces gens-là, non pas comme des soldats d'une république, qui a été démocratiquement, des soldats réguliers, mais comme des miliciens. Je rappelle que le terme milicien vient des milices populaires lorsqu'il y a eu le coup d'État. Ces hommes, ces miliciens, pas que d'ailleurs, les hommes en âge de se battre, eux vont être internés dans des camps de concentration. Donc j'utilise ce terme, je fais partie de plus en plus d'historiens le font, parce que je pense qu'on peut expliquer clairement la différence entre un camp de concentration en 1939 et un camp de concentration plus tard en Allemagne ou en Espagne ou ailleurs. Pourquoi d'ailleurs ce terme de camp de concentration ? Parce que l'idée était de concentrer ces réfugiés à la fois pour les isoler de l'espace public et pour les identifier. Donc l'idée n'était pas de les garder en détention, mais de les concentrer. Sachant que la volonté du gouvernement est qu'ils partent. Alors bien sûr, ces camps sont organisés dans l'ensemble du Sud-Ouest. Je ne vais pas revenir dessus, notamment comme ici à Sept-Fons. Alors moi, je dis Sept-Fons, excusez-moi. Sept-Fons, j'arrive pas. À Perpignan, on met les S à la fin. Le but initial, en fait, était de restreindre leur circulation en vue de leur refoulement ou sur leur option, leur libre passage en Espagne, pour reprendre les termes du ministre de l'Intérieur. Alors, le vœu d'Albert Sarro de voir massivement s'opérer ce retour ne va pas se réaliser dans les proportions souhaitées. Et donc, le temporaire va se prolonger et les hommes vont se retrouver littéralement parqués dans des camps où ils vont devoir apprendre à vivre dans un quasi-dénuement. Donc la création des compagnies de travailleurs étrangers en avril 1939 permet aux hommes d'obtenir des papiers temporaires sur le modèle des laissés-passer pour les civils. Les réfugiés placés dans ces compagnies, au début d'ailleurs ça s'appelait les compagnies de travailleurs espagnols. Compagnies de travailleurs étrangers, c'est venu après. Elles étaient uniquement composées d'Espagnols. Donc ces réfugiés, mais aussi ceux qui ont été placés dans l'industrie ou l'agriculture, peuvent ainsi bénéficier d'une autorisation de séjour temporaire. Et leur épouse et leurs enfants se voient offrir une allocation et peuvent, par le biais du regroupement familial, sortir des lieux d'hébergement, comme votre grand-père, sans avoir l'obligation de trouver du travail. Donc ce schéma, en fait, fixe la norme qui sera reprise en temps de guerre, après septembre, et par Vichy, qui va, en créant deux catégories de réfugiés, c'est-à-dire ceux qui sont utiles pour l'économie nationale, donc c'est des termes administratifs, et les indésirables. Donc cette première séquence, hein, ce que les gens appellent la retirade, en fait, qui se déroule, la retirade c'est vraiment 20 jours, hein, 15 jours, 20 jours. Mais cette première séquence se déroule donc de la fin du mois de janvier 1939 au mois de septembre, fixant ainsi donc une nouvelle norme dans le durcissement des lois vis-à-vis des étrangers et dans le traitement administratif que l'État entend mobiliser à leur encontre. Donc il faut savoir que tout au long des années 30, et essentiellement à partir de la guerre d'Espagne, il va y avoir une série de mesures. Et lorsque Daladier arrive au pouvoir, les fameux décrets Daladier, ces mesures vont devenir de plus en plus coercitives. C'est ce qu'on appelle la police des étrangers. Et donc Vichy, en fait, va... Et bien entendu, cette politique, ce durcissement, va encore s'accroître avec l'entrée en guerre de la France, avec notamment l'internement des ressortissants des puissances ennemies ou des juifs vont être pris au piège en tant que ressortissants de puissances ennemies. Donc, en fait, Vichy va rajouter ainsi au dispositif dont il hérite une rupture politique qui sera celle du pire. Mais si la nature de l'exclusion perpétrée par la Troisième République et par le gouvernement de Vichy à l'égard des indésirables n'est pas du tout à mettre sur le même plan, hein, de façon évidente, en raison notamment de la criminalisation de la résistance et des politiques antisémites et collaborationnistes de l'État français, il existe toutefois une continuité dans la surveillance et dans l'encadrement des étrangers indésirables de février 1939 à l'été 1944. Et de ce point de vue, la France n'a été ni hospitalière et encore moins solidaire à l'égard de ces hommes, femmes et enfants venus trouver refuge en France pour fuir des persécutions. Et quelque part, la question de l'hospitalité, de la solidarité s'inscrit aussi dans cette logique de continuité et de rupture. Et sur l'ensemble de cette période, hein, donc de la retirade à la libération, elle est à questionner dans différents contextes spécifiques et elle s'inscrit dans différents enjeux sociaux, culturels et politiques complexes. Donc il sera impossible de faire un inventaire ici en 15 minutes ni en une heure, mais on peut se pencher sur la solidarité, donc justement à l'égard des réfugiés de la retirade qui s'est manifestée en France. Alors il faut bien comprendre que la retirade, donc l'arrivée massive, je parle de la retirade de janvier-février 39, qui concerne donc la frontière pyrénéenne de Cerbère au bord de la mer jusqu'à l'Andorre, est un épisode unique et inédit. Là va se manifester des solidarités qui sont des solidarités qui peuvent être conjoncturelles. C'est-à-dire que dans chaque point de passage, on a des témoignages nombreux de gens qui, voyant la misère, hein, parce qu'on peut parler quand même d'une forme de misère, de gens qui fuient, vont apporter un soutien, une soupe, ouvrir une maison, ouvrir un mas, etc., etc., etc. Mais il faut bien entendu ne pas en faire une généralité, puisque d'autres personnes vont garder les volets clos, ou vont se détourner, ou vont dire « voilà les rouges qui arrivent » et vont craindre le pire. Mais la question de la solidarité, donc après cet épisode migratoire unique qu'est la retirade, à l'égard des étrangers venus d'Espagne, peut être appréhendée en trois grandes catégories. Donc la première s'inscrit dans le cadre du champ de l'action humanitaire en prolongement de celle entreprise durant la guerre d'Espagne. Alors on peut citer ici l'American Friends Service Committee, les Quakers ou le Secours Suisse aux Enfants qui vont suivre les réfugiés donc de la Catalogne jusqu'en France et en continuant de s'inscrire dans une logique de secours et d'assistance qui est entre guillemets non partisane. Et d'autres organisations qui sont présentes en Espagne, elles sont beaucoup plus orientées politiquement. C'est par exemple le cas du Comité international de coordination et d'information pour l'aide à l'Espagne républicaine. C'est le cadre aussi de la Solidarité internationale antifasciste, qui est une organisation de tendance libertaire. Et de la Centrale sanitaire internationale, qui elle est une organisation de tendance communiste, qui va être dissoute d'ailleurs par la préfecture de police en avril 1940, en tant qu'organisation communiste en application du fameux décret du 26 septembre 1939 qui dissout les organisations, partis et syndicats liés au Parti communiste ou à l'URSS. Donc toutes ces organisations qui vont être présentes lors de la retirade vont continuer à suivre les réfugiés en France. C'est-à-dire qu'il va y avoir un travail qui aura commencé en Espagne et qui va se poursuivre en France. Mais comme l'a souligné avec justesse, donc si vous voulez, forcément, une partie de ces organisations vont participer à l'organisation des camps. Mais comme l'a souligné avec beaucoup de justesse l'historienne toulousaine Maëlle Maugendre, qui a fait une thèse remarquable sur les réfugiés EES espagnols en France, en s'installant dans la durée, certains organismes humanitaires vont devenir des acteurs à part entière du processus d'assujettissement qui s'est poursuivi par le gouvernement français. Et un écart va se creuser entre certaines œuvres qui, sur le papier, partagent les mêmes objectifs, mais ne pensent pas à leurs modalités d'action sur le même registre. Les unes se déploient dans les camps selon une perception humaniste du travail social à l'égard des étrangers, comme c'est le cas de la CIMAD ou du Secours Suisse. Les autres, comme la Croix-Rouge, participent à la logique d'encadrement et de surveillance qui préside à l'instauration et au maintien des camps. La seconde catégorie, elle, peut se lire comme une forme de solidarité politique. Des militants syndicaux, ou politiques de gauche, majoritairement, vont ainsi venir au soutien des républicains espagnols qui arrivent en France. Je parle de militants français. Cela va aller d'initiatives locales, individuelles, ou par petits groupes, à des actions coordonnées à une plus grande échelle. Les idéaux politiques pluriels qui viennent d'Espagne se retrouvent ainsi dans un réseau qui est très hétérogène. Les militants anarchistes ou communistes bénéficient ainsi de points d'appui sur l'ensemble du territoire grâce à des organisations, syndicats et partis qui sont déjà établis en France. Ce réseau d'aide et d'entraide se structure aussi grâce aux réfugiés eux-mêmes, comme avec le Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, excusez mon accent, Post para Catalan Mio, créé par Juan Negrín, excusez-moi, pas Juan, donc chef du gouvernement de la République espagnole en exil, en mars 1939, et la Junta de Auxilio de los Republicanos Españoles, c'est ça, la JARE, qui réunit la plupart des partis politiques espagnols en exil, à l'exception du Parti communiste espagnol et du Parti national basque. Bref, cette toile s'étend sur toute la France avec des ramifications dans le monde entier, à commencer par l'Amérique du Sud. Mais cette toile, donc, qui s'étend, va être elle-même dissoute à partir de septembre 1939. Ainsi, bon nombre de ces organisations, proches selon le ministère de l'Intérieur de l'URSS, sont interdites durant la guerre. Ce dispositif, s'il s'est montré très efficace dans les premiers mois de l'exil, se heurte ainsi à la machine d'État. Sous surveillance policière, ces organisations d'aide aux réfugiés sont considérées comme pro-républicaines et donc comme potentiellement porteuses en elles d'éléments jugés dangereux pour la défense nationale ou la sûreté publique. Ainsi, dans les archives, qu'elles soient départementales ou nationales, on trouve des dizaines et des centaines de dossiers de surveillance de toutes ces organisations qui sont considérées comme, entre guillemets, suspectes. Si elles ne se sont pas elles-mêmes autodissoutes ou si elles n'ont pas été interdites, la plupart de ces dernières voient leurs militants continuer à œuvrer dans la clandestinité avec des réseaux qui seront autant de relais pour la résistance. Cette solidarité politique est aussi liée à des points de vue plus corporatistes. Ainsi, les militants basques ou catalans bénéficient eux aussi de nombreux soutiens. C'est aussi le cas, par exemple, pour les intellectuels, les artistes, les médecins ou les universitaires qui peuvent compter sur de solides réseaux en France. Enfin, la dernière partie concerne l'aide individuelle qui reste la plus difficile à cerner. Elle s'inscrit, elle, dans un sentiment de fraternité. Les deux autres aussi, bien entendu. Cette dernière peut être d'abord familiale, car, comme vous l'avez signalé, avant la retirade, il y avait énormément d'Espagnols qui vivaient en France et principalement dans le sud-ouest. Ainsi, au début des années 1930, c'est le recensement de 31, je crois, la France compte 2,7 millions d'étrangers, soit 6,6% de la population totale, dont près de 350 000 Espagnols. Donc dans le sud-ouest essentiellement, de nombreux réfugiés peuvent compter sur l'aide de parents, même de parents éloignés. Picasso, par exemple, va faire sortir son neveu du camp d'Argelès, bien que son action ne se limite pas à sa famille, puisque le peintre obtiendra la sortie de nombreux autres artistes et viendra en aide à beaucoup de peintres exilés à Paris. À cette solidarité familiale vient aussi s'ajouter une solidarité plus large, de la part d'Espagnols installés en France, hors du champ politique évoqué plus haut. C'est-à-dire que des Espagnols qui sont installés, voyant d'autres Espagnols qui ne sont pas forcément de leur famille, vont venir en aide par solidarité et par fraternité. C'est aussi le cas pour des Français qui n'ont pas pris fait et cause pour la République espagnole, mais qui sont choqués par le traitement infligé aux réfugiés, notamment dans les camps. Ces témoignages d'aide sont nombreux, et dans tous les territoires où se trouvent les camps et les centres d'hébergement. Alors je vais ici citer un court extrait du témoignage de Asuncion Elegas, dont le père fut enfermé avec ses deux frères au camp d'Argelès-sur-Mer en février 1939. Et donc son père et ses deux frères vont être recrutés par un agriculteur de la, de la commune. Je cite. Si j'ai pu mener une vie de famille pendant mon enfance, c'est grâce à l'humanité de civils français qui ont aidé mon père à obtenir un travail et à quitter le camp de concentration dans lequel il était interné, seulement parce qu'il avait commis le crime de fuir l'Espagne de Franco, mais aussi parce qu'ils ont aidé ma mère, accompagnée de ses deux enfants, à rentrer en France en cachette. Ils ont également aidé ma mère à rejoindre mon père. L'historien doit toutefois s'interroger par rapport à ces témoignages en portant un regard critique. Non pas les nier, mais il faut savoir qu'à lui seul, le camp d'Agde fournit au mois de septembre 1939 3500 vendangeurs espagnols répartis dans tout le Grand Sud. Il est impossible de connaître, sur ces 3500, le pourcentage d'internés sortis du camp pour travailler dans le cadre d'un élan de solidarité ou pour des raisons beaucoup plus pragmatiques. Ainsi, les placements de ces travailleurs obéissent souvent à des postes contraints. Au mois de novembre 1939, ce sont ainsi 35 000 Espagnols qui sont mobilisés dans les compagnies de travail, 10 000 dans l'industrie et 10 000 dans l'agriculture. Le ministère de l'Intérieur, en concertation avec celui de la guerre du travail et de l'agriculture, encourage alors les regroupements de familles afin de conserver cette main-d'œuvre, tant civile que militaire, en allégeant du coup les charges de l'État que représentent les réfugiés dans les camps. Concernant l'accueil de ces réfugiés espagnols en 1939, il est donc difficile de voir la jonction entre des politiques d'État et des initiatives citoyennes, collectives ou individuelles, tant ces dernières s'inscrivent en correction d'un dispositif excluant la solidarité avec l'Espagne républicaine, déjà mise à mal par la politique de la non-intervention. Si l'État a assumé la charge des réfugiés, il a aussi encouragé, voire forcé dans certains cas, le retour d'une partie de ces derniers et astreint à la servitude, par les camps ou par le travail, ceux qui ont souhaité rester en France. Eh bien, il a bien entendu encouragé les autres à émigrer. Les Rouges ont toujours fait peur. Aux inquiétudes de l'état-major de la Légion étrangère, Édouard Daladier répond que le recrutement des légionnaires parmi les réfugiés espagnols, je cite, « est envisagé de façon à ne pas altérer sensiblement le caractère de la Légion et à ne pas dépasser les 14% environ de l'effectif total ». Le président du Conseil se coupe alors de soldats aguerris qui viennent de combattre les ennemis de demain. Je pourrais multiplier les exemples d'exclusion, mais le propos de cette table ronde n'est pas celui-là. Pour conclure, je pense qu'il faut aborder la question de l'accueil des réfugiés venus d'Espagne en 1939 dans un jeu d'échelle plus large que celui de la logique d'accueil mise en place par l'État, même si cette dernière est centrale. Des réfugiés ont ainsi pu bénéficier de nombreux soutiens de solidarité incarnés par organisations, partis, syndicats, mais aussi par de nombreuses initiatives individuelles, même si ces dernières n'ont pas de valeur collective, puisqu'elles ne sont pas inscrites dans un dispositif administratif. Il convient donc de continuer à étudier ces attitudes de soutien, de solidarité, d'aide qui préfigurent l'aide apportée aux étrangers durant Vichy. Mais là aussi, il convient d'éviter les comparaisons, tant l'action de sauvetage des étrangers en 1939 et en 1942 ne revêt pas le même risque. Mais ces valeurs d'assistance incarnent toutes une forme de résistance. Je vous remercie.
Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant et je pense que ça va largement nous permettre d'ouvrir le débat par la suite. Maintenant, je vais vous passer la parole à Madame Landaro qui va nous ouvrir le champ de l'exil et de l'hospitalité d'un point de vue de sociologue. Merci.
Merci à vous deux et à tout le monde d'être là. Je suis finalement très contente d'intervenir à ce moment-là après vos deux interventions parce que je me rends compte que même si nos objets d'intérêt et de spécialité quelque part peuvent sembler à premier abord assez éloignés, ne serait-ce que d'un point de vue temporel, hein, de périodes historiques sur lesquelles on travaille, j'y ai perçu pas mal de liens et donc je pense que ça pourra être quelque chose à utiliser pour que le débat soit riche et participatif. Alors, du coup, en tant que sociologue, moi j'étudie les politiques migratoires en Europe, et en particulier en France et en Italie, donc je suis sur des objets très contemporains. Et plus spécifiquement, j'étudie les effets de ces politiques migratoires sur les parcours des migrants, mais aussi sur les habitants des zones frontalières. Et puisque je travaille plus spécifiquement sur la France et l'Italie, j'ai enquêté ces dernières 6 années sur 2 territoires frontières qui sont devenus progressivement des symboles de celle qu'on appelle aujourd'hui, avec plein de pincettes à prendre, la crise des réfugiés. Un de ces territoires frontières, c'est l'île italienne de Lampedusa, donc cette toute petite île qui fait 20 km² et qui se trouve au sud de la Sicile, mais beaucoup plus près des côtes tunisiennes. Et donc sur cette île arrivent des nombreux candidats à l'asile qui tentent du coup de pénétrer en Europe pour ensuite éventuellement poursuivre leur voyage. Et le deuxième territoire frontière sur lequel j'ai beaucoup enquêté ces derniers temps, en particulier à partir de 2016, c'est la frontière franco-italienne entre Ventimiglia et Menton et les montagnes de la vallée de la Roya qui est devenue célèbre grâce à justement des pratiques de résistance de certains de ses habitants. On reviendra sur le sujet peut-être pendant le débat. Alors dans tout ça, j'ai un intérêt encore plus particulier pour les débordements du pouvoir de l'État, ce que j'appelle son pouvoir discrétionnaire, qui se traduit à la frontière en des pratiques en marge du droit. Autrement dit, je m'intéresse au pouvoir que l'État s'arroge de contourner le droit et les procédures, par exemple, en refoulant des mineurs isolés à la frontière de la France vers l'Italie, ou encore, pour ce qui est de l'Italie depuis quelques mois, en interdisant l'accès au port de navires impliqués dans les sauvetages en mer Méditerranée. Vous avez peut-être eu écho de l'affaire de l'Aquarius, qui est le bateau de l'ONG SOS Méditerranée, qui a été interdite de rentrer dans les ports italiens et qui a attendu un temps relativement long avant que l'État espagnol, du coup, lui permette de rentrer au port de Valencia. Alors, c'est un pouvoir d'exception parce qu'il rentre en conflit avec le droit commun et le droit international, mais il est pour autant justifiable du point de vue de l'État. Lorsque des raisons exceptionnelles ou des intérêts supérieurs peuvent être évoqués, comme par exemple la sécurité intérieure. Mais, et voici le lien avec le thème de l'hospitalité, parce que pour l'instant vous êtes certainement en train de vous demander quel est le lien avec ce qui nous préoccupe ce soir. Je m'intéresse aussi aux formes de résistance et de désobéissance à ce pouvoir discrétionnaire de l'État, qui parfois relève d'une hospitalité presque subversive aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que elle a lieu dans un contexte contemporain sociopolitique de criminalisation des initiatives spontanées d'aide et de solidarité envers les personnes en exil. L'État français, italien, mais pas que, y voit d'abord et avant tout une critique en acte de ces décisions, de ces orientations politiques. Et donc, les habitants solidaires avec les exilés de certaines zones frontalières, tels des opposants ou des résistants en période dictatoriale, sont traités tels des délinquants et font parfois l'objet de poursuites en justice. C'est une des raisons pour lesquelles on a entendu pendant un temps beaucoup parler de la vallée de la Roya, puisque dans cette vallée, un groupe d'habitants a commencé à ouvrir les portes de leur maison, à secourir des personnes qui croisaient dans la rue, à les faire monter dans leur voiture, éventuellement à les accompagner dans une gare proche pour qu'ils puissent se rendre dans une ville et déposer leur demande d'asile. Mais tout ça, dans une vallée à la frontière, revient à être classifié par l'État et la justice comme des actes de désobéissance qui sont parfois associés à ce qu'on appelle le délit de solidarité, sur lequel, par ailleurs, le Conseil d'État est revenu cet été en essayant de rectifier un peu le tir sans trop y réussir et en revenant notamment sur la centralité du principe de fraternité qui était censé être une petite révolution mais qui de fait, nous pourrons en rediscuter pendant le débat si vous êtes intéressé à cette question, ne change pas énormément la situation judiciaire de certaines de personnes qui se sont vues accusées de ce fameux délit de solidarité à la frontière franco-italienne. Alors, pour revenir un peu au contexte et pour progressivement arriver à mon point principal ce soir, au cours de ces dernières années, l'Union européenne et ses États membres ont mis en scène un spectacle pour le moins consternant, puisque face aux exodes provoqués par différentes guerres en cours et de multiples raisons politico-économiques, ces gouvernants et les institutions qui seraient censées représenter presque 500 millions d'habitants européens ont pris la décision de multiplier les efforts et les ressources destinées à davantage protéger leurs frontières plutôt qu'à tenter de répondre favorablement à la demande de protection formulée par des centaines de milliers de demandeurs d'asile qui venaient s'échouer sur ses côtes ou qui demandaient de pouvoir rejoindre un membre de la famille dans un pays d'Europe continentale. Donc, pour faire court, l'Union européenne, mais aussi les États membres individuellement, ont opté pour une gestion restrictive de l'accès à son territoire et à sa communauté politique. Donc, cette gestion restrictive passe par des mesures, par des décisions collégiales qui ont été prises au sein de l'Union européenne, mais aussi par des décisions individuelles des États-nations d'ériger des murs, de construire des barbelés, de faire en sorte qu'il y ait des outils pour entraver le passage de ces personnes en migration, même à l'intérieur du territoire de l'Union européenne. Or, à quelques reprises, des critiques d'intellectuels, d'artistes, de quelques élus, voire de simples habitants, se sont levés, invoquant parfois le concept d'hospitalité, précisément, comme alternative à cette fermeture des frontières européennes. De mon point de vue, ces critiques portent en elles un rapprochement problématique, par contre, entre l'idée d'hospitalité et les politiques institutionnelles d'accueil de demandeurs d'asile. Puisqu'en suivant la logique de ces critiques qui font le rapprochement entre hospitalité et politique d'accueil, l'hospitalité se traduirait en la disponibilité des États occidentaux à octroyer le statut de réfugié aux plus de personnes possibles, statut qui permettrait de légitimer et d'officialiser la possibilité pour l'exilé de rester, d'être accueilli au-delà de l'urgence imminente. Mais l'hospitalité, et c'est mon point principal, c'est quelque chose d'autre, du moins devrait être quelque chose d'autre. Quand on parle du devoir d'accueil, on évoque principalement les responsabilités des institutions dans le respect des règles et de procédures censées garantir, par exemple, l'accès aux droits fondamentaux, tels l'asile, pour toutes et tous. Donc le devoir d'accueil est donc d'abord le ressort des pouvoirs publics, où la volonté finalement des individus n'est pas véritablement en jeu. Alors, de manière radicalement différente, le concept d'hospitalité évoque avant tout un choix individuel. Cela revient à se réapproprier de la liberté d'accueillir des personnes, non pas parce qu'une loi nous en fait l'injonction, mais parce qu'on en fait le choix. Donc, le moteur de ce choix peut être évidemment de différents types, mais il peut y avoir, par exemple, l'envie de résister à un système de l'accueil très institutionnalisé qui enferme, par exemple, qui distingue, qui trie, qui hiérarchise. Il peut y avoir l'envie d'opposer une hospitalité spontanée au repli identitaire, par exemple, à l'indifférence envers autrui ou aux angoisses sécuritaires qui justifient pour beaucoup cette tendance des politiques européennes à l'enfermement, à la protection de la frontière plutôt que la protection des vies des personnes qui tentent de les franchir. Alors, je défends ici avec vous, mais j'aimerais qu'on en discute, qu'on en débatte, l'intérêt de toujours préciser le contexte sociopolitique et historique dans lequel on fait usage du terme d'hospitalité. Mais puisque moi je parle du contemporain, C'est au vu de l'orientation extrêmement grave que prennent les décisions politiques et législatives récentes en Europe qu'il me semble pertinent parfois de parler d'une hospitalité en tant qu'acte de résistance. Et donc là, il y a peut-être des liens justement entre nos interventions respectives. De quelle hospitalité on peut parler si on l'associe à la résistance, à une forme de résistance? Pour essayer de vous donner à voir mon propre positionnement, je vais vous porter un exemple. Faire sentir son hôte le bienvenu, lui ôter le fardeau de l'être étranger à un lieu, à un groupe, à une langue, pour que ses éventuelles différences soient acceptées, ou du moins pour qu'elles ne posent pas problème a priori. Ça, c'est une manière de concevoir l'hospitalité comme quelque chose de radicalement différent à l'hospitalité invoquée pour faire changer une orientation de politique publique en termes d'accueil. Et là, pour moi, réside fondamentalement la différence radicale entre l'hospitalité du choix individuel et les politiques de l'accueil envers des demandeurs d'asile, des réfugiés, des mineurs, peu importe la sous-catégorie, qui portent en elles finalement toute la violence du renvoi à autrui de son altérité problématique, de son extériorité à la communauté majoritaire. Alors ces politiques de l'accueil se fondent en Europe depuis plusieurs décennies pour la période contemporaine, mais encore on peut trouver des liens sur l'époque vers l'époque moderne, etc. Donc je disais se fondent sur la séparation spatiale d'abord. De par l'institutionnalisation de camps, de centres de rétention et d'identification, aujourd'hui de CAO, de CADA. Évidemment que ces centres n'ont pas le même statut et que les personnes n'y sont pas hébergées, accueillies de la même manière, mais le principe commun, le commun dénominateur, c'est la séparation spatiale. Et donc, de par les enquêtes que j'ai mentionnées au début de mon intervention, que j'ai pu conduire en France et en Italie, j'ai aussi pu documenter qu'il s'agit davantage d'un régime du soupçon qui les régit, ces espaces, puisque les parcours de l'exilé est ponctué d'injonctions à faire la preuve de sa détresse, de sa bonne foi, de sa vulnérabilité. Ce sont des caractéristiques qui ouvrent ou ferment des portes, selon que le récit de la personne soit considéré crédible par la personne qui est censée examiner son cas d'un point de vue administratif. Or, la différence fondamentale, c'est que l'hospitalité n'exige pas cela, a priori, quand on accueille un hôte chez soi. Alors, la question du choix de la volonté individuelle est centrale de mon point de vue. D'une part, il y a le devoir d'accueillir qui fait référence à l'existence d'une codification nationale et internationale des responsabilités publiques et collectives vis-à-vis de la vie de personnes venues d'ailleurs et qui ont besoin d'être secourues, aidées, mises à l'abri. D'autre part, il y a le choix et la volonté individuelle qui puisent dans l'éthique du soi, qui représente du coup des possibilités que chacun peut s'octroyer de résister par l'hospitalité à un système d'accueil public qui exclut plus qu'il n'accueille. Alors on est dans des configurations radicalement différentes, voire opposées. Et donc c'est pour ça que résister par l'hospitalité, c'est aussi aujourd'hui parfois désobéir. Donc là, il y a un champ du débat qui s'ouvre, je pense, à nous. Évidemment que je peux, pendant le débat, vous parler plus précisément du cas des personnes dans la vallée de la Roya, mais en contrepoint, je serais ravie de vous donner des détails aussi de comment un accueil institutionnalisé peut avoir un impact très très fort sur une population comme celle de l'île de Lampedusa, qui est sous les feux des médias depuis bien plus longtemps que la vallée de la Roya, et où des personnes qui historiquement ont toujours habité une île frontière, mais qui était plutôt une île ouverte aux personnes venues d'ailleurs, s'est progressivement transformée dans l'approche à cette même personne venue d'ailleurs, mais qui aujourd'hui n'est plus traitée de la même manière, qui rentre de suite dans la machine institutionnelle de l'accueil et qui, du coup, a un impact très, très fort sur les éventuelles solidarités spontanées qui peuvent se mettre en place. Voilà, donc je m'arrête là et puis j'espère avoir lancé plusieurs pistes pour que la discussion prenne avec vous.
Merci beaucoup. Je pense qu'il va y avoir effectivement de quoi discuter et lancer le débat. Mais avant de passer la parole à l'assistance, moi me vient une petite question. Je voudrais savoir quel est selon vous l'enjeu d'une réflexion à mener sur la question de l'hospitalité lorsqu'il est question d'exil. La question se veut un peu transversale et pour vous deux. Hein.
Bon, alors il est clair que l'enjeu est d'une actualité brûlante dans la mesure où cette crise de l'accueil dont on parle beaucoup depuis des années, elle est loin d'être terminée. Et pour moi, l'enjeu de société qui se pose face à cet enjeu très contemporain, c'est le fait de provoquer le sentiment d'implication dans ce phénomène-là du plus de personnes possible. Parmi vous, je ne sais pas, je vous connais pas, mais il y a certainement des personnes qui sont plus proches de cette thématique parce qu'elles travaillent peut-être dans le social ou parce que elles connaissent quelqu'un qui travaille dans le CAO du coin, etc. Mais il y en a d'autres qui, de par leur vie quotidienne ordinaire, ne s'intéressent pas véritablement à la question. Mais mon point, c'est que ce type de débat, comme celui d'aujourd'hui, devrait pouvoir servir à, petit à petit, alimenter une forme de conscience collective sur un enjeu de société qui nous touche tous, non pas parce que on a tous quelqu'un chez soi qu'on héberge, mais parce qu'on est tous responsables de la société dont on fait partie et de la direction qu'on a envie qu'elle prenne, cette société. Alors si on décide que l'hospitalité c'est une valeur qui nous est chère, ben, il faudrait pouvoir collectivement penser à de manière de la rendre opérationnelle, cette hospitalité. Et un des enjeux pour moi de cet énorme chantier, c'est de ne pas se cantonner à donner la responsabilité seule et unique aux institutions de se charger de l'accueil ou de l'hospitalité. Parce que, bon, ça peut paraître une évidence, mais on est tous responsables des formes que l'hospitalité peut prendre en pratique. Et on est tous potentiellement en mesure de faire évoluer une forme d'accueil très basique et très problématique et très défaillante et très déficitaire, et je pourrais trouver des milliers d'adjectifs supplémentaires, de cet accueil dont se chargent les institutions en France aujourd'hui, mais pas qu'en France, évidemment.
Moi, j'ai beaucoup apprécié ton intervention. Les sociologues sont toujours plus brillants que les historiens. Et je m'aperçois que ton propos, enfin, mon propos, mes recherches, en fait, les thématiques sont toujours très contemporaines. J'ai beaucoup aimé, justement, la différence que tu fais entre accueil et hospitalité, et que peut-être que c'est ce qu'on appelle la crise migratoire aujourd'hui, qui au regard des mouvements de population pas énorme, parce qu'on a bien vu que les années 20 et 30 ont amené beaucoup plus d'étrangers que ce que la retirade a amené en France, c'est qu'il y a justement une opposition entre un accueil qui est un accueil du soupçon, c'est ton terme, où on soupçonne, on voit dans les étrangers une importation de quelque chose, etc., et une forme d'hospitalité qui prend une forme de résistance. De résistance justement à ce pouvoir, au pouvoir de l'État, qui d'ailleurs, et c'est là où il faut se méfier, et quand il devient de plus en plus exécutif et de moins en moins législatif, peut faire peur. J'explique en cela que les pouvoirs confédérés aux préfets dès la retirade et surtout après la déclaration de guerre dans le cadre de l'État, ce qu'on n'appelle pas l'État d'urgence mais l'État de guerre, ont permis justement des dérives. Et qu'aujourd'hui, d'autres pouvoirs qui sont confédérés, hein, pas au préfet en raison de l'État d'urgence, qui a été baissé mais bon, qui peut encore augmenter. Donc j'aime bien, j'ai beaucoup, voilà, je pense que je m'inscris dans ce que tu dis entre la différence entre accueil et hospitalité et qu'effectivement on est encore en... On a encore le choix individuellement d'être hospitalier, de faire preuve d'hospitalité, sans risquer, même si le délit de solidarité a été quand même un peu abaissé, je crois. Mais voilà, donc cette idée d'opposition entre un accueil du soupçon et une hospitalité qui revêt une forme de résistance peut effectivement faire écho à des périodes déjà passées.
Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut vous demander d'intervenir maintenant.
Bonjour. Ce que vous disiez me fait un peu penser à cette image de la nef des fous qui expliquait à une époque où les fous étaient accueillis dans les villages et où chacun faisait preuve d'une forme de tolérance et donc, je pense, d'hospitalité vis-à-vis de ces personnes. À une époque, une légende disait qu'on les emmenait dans un bateau sur le Rhin et qu'on les déposait aléatoirement à d'autres endroits. Je pense effectivement, comme vous le dites, qu'il y a une tentative de dessaisissement par les autorités des capacités d'accueil des populations migrantes et que toutes les structures, sous toutes les formes qu'elles existent, y compris dans les formes les plus violentes comme les centres de rétention, où j'ai eu le malheur de travailler un peu, sont des structures qui cherchent à mettre à l'écart de la population les migrants une fois qu'ils sont référencés en cours de procédure, voire saisis par l'État. Je pense que... On parle aussi d'une forme de responsabilité dans la question de l'accueil. C'est-à-dire que tous ces lieux institutionnels et d'État ne sont pas des lieux tous fermés. Les centres de rétention sont un très mauvais exemple, mais l'immense majorité des personnes migrantes, en procédure ou non, se retrouvent dans des endroits qui sont beaucoup plus ouverts que ça, et qu'il y a une possibilité de saisissement aujourd'hui par la population locale, d'une capacité d'intervention dans ces lieux. Et qu'il y a une question de responsabilité. Je vais vous citer un exemple qui était assez marquant, c'est que quand je travaillais dans ces prisons pour étrangers, j'avais contacté l'évêché pour mettre en place une aumônerie, puisqu'on était sur une question de droit fondamental. Il y avait la possibilité qu'un prêtre puisse rentrer dans des lieux fermés à tous, y compris aux avocats, et où seuls les députés ne pouvaient rentrer, ce qui arrivait une fois par an. pour qu'ils puissent venir voir ces personnes. L'évêché a refusé pour des raisons politiques, évidemment. Mais il y a là une possibilité d'entrée que certains n'ont pas voulu et n'ont pas pris la responsabilité de prendre. Je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'au quotidien, et ça vaut sur beaucoup de sujets sociaux, politiques au sens grec, il y a un sens de la responsabilité à retrouver à travers les tentatives de dessaisissement de l'État qui sont faites autour de ça. Et pour la question de l'hospitalité, je ne sais pas si c'est une légende qui est vraie, mais peut-être que l'historien va me confirmer. Il me semblait qu'à une période du Moyen-Âge, les gens qui faisaient le refus d'hospitalité se faisaient couper le nez comme sanction. Ce qui me semble assez cohérent d'ailleurs, puisque en fait, les pestiférés, la première chose qu'ils perdaient, c'était leur nez. Et je pense que c'était, à mon sens, j'ai plus malheureusement la source autour de ça, mais ça me semble porter du sens. C'est que la question de l'hospitalité est une question vitale en société, je crois. C'est une capacité à vivre ensemble qui donne du sens à notre collectivité, aussi étendue ou dense soit-elle. Et de s'en dessaisir, c'est de se dessaisir de sa capacité à vivre avec l'autre, je crois.
Sur le coupage de nez, je ne vais pas m'aventurer. Par contre, entre la période moderne et la période contemporaine, il y a eu un glissement. C'est-à-dire que pendant longtemps, les zones, enfin, on va pas remonter au traité de Vienne, mais si vous voulez, pendant longtemps, il y avait des territoires voisins. C'est-à-dire qu'il y avait une circulation entre les territoires, entre la France et l'Espagne, entre la Belgique et la France, etc., etc. Et il y a eu une tension à la fin du XIXe siècle qui a considéré que tout d'un coup, on venait plus d'un territoire voisin, mais on venait d'un pays voisin. Donc en fait, c'est ça la question. Et donc effectivement, au Moyen-Âge, où les frontières étaient beaucoup plus poreuses qu'aujourd'hui, il y avait encore cette notion, je pense, de transversalité de territoire. C'est-à-dire que voilà. C'est ce qui a changé, c'était la notion de venir d'ailleurs, quoi. Et pas de venir de... Il y a des territoires, par exemple, dans les Pyrénées, qui ont longtemps fonctionné comme ça, hein, que ce soit en Cerdagne ou dans d'autres coins. Il n'y avait pas de différence entre un Cerdan français ou roussillonnais et un Cerdan catalan, quoi. Voilà.
Bah, je vais peut-être rebondir à mon tour. à la fois sur la question du délit de solidarité et de l'hospitalité. Je vais peut-être d'ailleurs commencer par l'hospitalité, juste pour vous faire part d'un sentiment de sociologue qui tente de regarder un peu les changements macro entre périodes en termes de ce qui fait lien social dans une société. Moi, j'ai l'impression qu'un autre glissement très important qui s'est produit dans la société européenne, pour parler en termes très généraux, c'est le passage d'une société où il était presque honteux de ne pas faire preuve d'hospitalité envers l'autre, que l'hospitalité c'était même une marque de noblesse lorsqu'on avait l'opportunité de montrer aux autres qu'on était accueillant vis-à-vis d'un étranger, un voisin, etc. Et qu'on a progressivement glissé vers une société qui est beaucoup plus individualiste et où est beaucoup moins valorisé le fait de faire la preuve de cette ouverture vers l'autre. Donc là, pour le coup, il y a peut-être à être alerte collectivement sur ce type de glissement et là encore à faire preuve de résistance. Alors c'est à un niveau beaucoup plus micro, à un niveau beaucoup plus individuel, mais toujours est-il que c'est des individualités qui font société. Donc du coup, il ne faut pas, je pense, perdre du courage en regardant son échelle de vie face à une masse de sociétés qui semble partir dans l'autre sens ou prôner pour un modèle complètement autre par rapport à celui qu'on voudrait défendre. Et puis sur le délit de solidarité, là encore, presque, je dirais que ça se veut un encouragement, ma précision, c'est que en fait, le Conseil d'État s'est exprimé. Pardon ? Oui, c'est le Conseil constitutionnel. J'ai dit quoi ? Le Conseil constitutionnel qui s'est exprimé sur la question de la fraternité a effectivement, pour l'énième fois, on va dire, sorti d'affaire tout acte de solidarité qui implique l'hébergement, l'aide matérielle à titre gratuit d'un individu ou d'un groupe vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe en détresse. Donc ça implique que demain, si vous voulez ouvrir votre porte et héberger quelqu'un, vous risquez absolument rien. Et ça, il faut le dire en fait autour de soi, parce qu'il y a beaucoup de peur autour de cette question de l'aide, de l'accueil de chez soi, peur que quelqu'un puisse dénoncer, nous dénoncer, etc. Bon, ce délit-là n'existe pas. On n'est pas punissable pour cela. Là où la question est beaucoup plus délicate et là où le Conseil constitutionnel n'a pas du tout fait avancer les choses, c'est lorsque l'aide se traduit dans les zones frontalières aussi par l'aide à la traversée de la frontière. Donc lorsque on secourt une personne avec sa voiture à Vintimille, par exemple, et qu'on la fait se reposer, se soigner chez soi à Breil, sur Roya, en territoire français. Là, la loi et le Conseil constitutionnel ne protègent pas de ce type d'aide, parce que on peut à tout moment être soupçonné de trafic d'êtres humains ou de favoriser l'immigration clandestine. L'entrée clandestine, en fait, l'entrée sur le territoire, l'entrée irrégulière sur le territoire. Et là, pour le coup, pour faire la preuve de ne pas avoir perçu de l'argent, etc., d'avoir fait ça en cas d'extrême urgence, c'est beaucoup plus compliqué pour la personne qui se fait accuser de ce type de crime-là. Mais c'est une situation finalement très particulière. Là, on est loin de la frontière. Et pourtant, à Toulouse et ailleurs, il y a des gens qu'on pourrait aider de manière très diversifiée sans courir aucun risque. Donc,
Moi, j'aurais une question, moi, à la sociologue ou à l'historien, ça m'est égal. Ce que vous dites, c'est très intéressant, mais ça veut aussi dire que depuis la Révolution française, où étaient français tous ceux qui étaient partie prenante, finalement, de la devise de la France et de ses combats contre les migrants de Koblenz, les royalistes, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts de Napoléon, et l'État s'est approprié toutes les décisions avec des directives et des lois. Alors, en 1939, finalement, l'État français, il n'a pas eu, enfin en 1940, il n'a pas eu beaucoup de mal, finalement, à resserrer les boulons, à licencier, à virer, à réordonner les choses. Et depuis, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements sociaux qui aient abouti à une révolution politique qui remette à l'ordre du jour la liberté, l'égalité, la fraternité dans les faits. Je vais donner un tout petit exemple parce que je suis catalan et que je les énerve à chaque fois avec ça. Il y a des lois sur l'extradition, des accords entre la France et l'Espagne qui n'ont rien à voir avec Schengen, qui datent de l'époque où ETA faisait sauter des premiers ministres, assassiner des carabiniers, etc. C'est fini depuis plus de 20 ans, ETA a déposé les armes. L'accord d'extradition entre la France et l'Espagne est toujours valable, personne ne l'a enlevé. Et aujourd'hui, il s'applique à des gens qui ont déposé des urnes le 1er octobre de l'année dernière pour que pacifiquement et démocratiquement les Catalans s'expriment. Ces gens-là sont obligés de se réfugier à Bruxelles. S'ils mettent le pied en France, on les remet à la Guardia Civile. Bon, personne n'a fait le ménage dans les lois. On continue à avoir un État qui décide qu'est-ce qui est un délit et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ne me dites pas que c'est l'Assemblée nationale qui le décide, parce que personne ne croit, même pas eux.
Non, mais je ne peux que partager votre avis dans la mesure où je me retrouve tout à fait d'accord sur le constat d'un déficit de représentativité de l'État contemporain. Enfin, c'est-à-dire que aujourd'hui, il me semble que malheureusement, le geste d'aller voter, non seulement est perçu par beaucoup de personnes comme un geste symbolique, mais pas factuellement très utile pour changer le monde, pour utiliser des termes très pompeux, mais véritablement sur des décisions factuelles, contemporaines, contingentes à des problèmes de notre temps, on est face à un État qui non seulement n'est pas en mesure de prendre en compte les avis de ses concitoyens, mais qui est aussi en mesure, par le biais de mesures d'exception, l'état d'urgence, etc., de légitimer des décisions arbitraires parce qu'elles contournent même le droit interne et le droit international. Donc, la mise en œuvre de l'état d'urgence a eu un tas d'effets, mais sur la frontière, on en a vu des très concrets. L'extension des pouvoirs de contrôle d'identité par la police, le maintien en zone pas officielle de rétention, non seulement pour les personnes étrangères, mais aussi pour les habitants des zones frontalières, etc. Enfin, je pourrais porter d'autres exemples sur la question, mais voilà, c'est pour aller dans votre sens, finalement.
On va pas ouvrir le débat sur la Catalogne, je pense qu'on partage le même point de vue. Mais pour la question des extraditions, vous savez, l'État peut se montrer très pragmatique. Vichy avait signé une convention avec le gouvernement mexicain pour récupérer beaucoup d'argent, énormément d'argent, en échange de l'accueil au Mexique de réfugiés espagnols. De l'ouverture parce qu'ils voulaient se débarrasser de cette charge. Et les Mexicains ont exigé qu'ils mettent un terme une loi d'extradition qui remontait, je crois, à 1888, enfin une loi du 19e, qui spécifiait qu'on ne pouvait extrader en Espagne uniquement des personnes qui avaient été condamnées pour des délits de droit commun et pas pour des délits politiques. Alors, il y a Luis Companys, le président de la Catalogne, qui a été livré par les Allemands à Franco avec l'aide d'un policier français, certes. Il y a eu des extraditions sous Vichy, mais l'ensemble en 1940, les services espagnols donnent une liste de 2300 noms en disant cela on les veut. Et parmi eux, il y avait les ministres, etc., etc. Et ben, si Frédéric Amonseigne et tous ces gens-là ont pu éviter l'extradition, c'est parce que la justice, au regard de cette loi, l'en a empêché. C'est-à-dire que politiquement, et pourquoi l'État français a justement eu cette espèce de volonté de ne extrader que des gens qui étaient pour des délits de droit commun, parce qu'ils avaient reçu de l'argent et qu'ils avaient pu faire partir. Donc vous voyez, les notions d'extradition peuvent être tout à fait... Mais on s'éloigne un peu du sujet, mais c'était juste pour revenir sur la question d'extradition.
D'autres questions ? Oui ?
Oui, merci. Moi, j'aimerais revenir sur cette notion entre hospitalité et accueil, parce que je pense qu'elle est essentielle. Si on considère en effet que l'hospitalité est une façon d'être, elle s'applique bien au-delà des questions d'immigration. Elle peut s'appliquer vis-à-vis de handicap. Derrière, il y a une notion première de tolérance, d'acceptation de l'autre. Donc, effectivement, tout individu, toute personne est censé avoir à être d'une certaine manière vis-à-vis des autres. Je crois que ça, c'est le point de départ. Ensuite, individuellement, un citoyen, il a toujours la capacité à voter. Donc, quelque part, même si l'État prend des décisions restrictives, comme vous l'avez évoqué, idéalement, et d'un point de vue très concret, au moment des élections, par les votes, on pourrait faire émerger un courant, une volonté différente. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. On voit très clairement qu'aujourd'hui, l'acte de résistance est plus individuel ou organisé par, selon certains courants, certaines organisations, plutôt que politique au sens noble du terme. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Acte politique au sens noble du terme, c'est le vote aux élections, vous dites ? Alors, moi, je reviens peut-être sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que vous aurez probablement perçu mon manque de confiance en le système politique partisan et mon manque de confiance en un changement de société qui viendrait par le vote. Là, je le cache pas et on pourrait l'argumenter ensemble si vous êtes intéressé. Mais un de mes arguments principaux, c'est que on a tellement d'exemples récents et anciens de gouvernements qui ont eu la confiance du peuple et qui l'ont trahi et qui ont les moyens légitimes de le faire. En fait, c'est pas juste une question de mauvais esprit exceptionnel d'un représentant politique qui fait preuve de trahison vis-à-vis de ses électeurs. C'est un système qui le permet, en fait, et qui même l'encourage, dans la mesure où, au sein de certains systèmes politiques, le parti qui a reçu le plus de votes n'est même pas forcément en mesure de gouverner. Enfin, là, je pourrais vous porter le cas qui est le cas de mon pays, qui est l'Italie, puisque je suis pas française. Bon, là, on est dans une transition qui dure depuis plusieurs décennies, où on est face à des gouvernements d'alliances qui ne représentent nullement, mais même pas le choix de un seul citoyen, parce qu'un citoyen, il vote pour un parti, pour une personne, et il se retrouve à être gouverné par des coalitions douteuses de différents bords politiques. Et après, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur la noblesse du geste politique, je reprends vos termes, parce que quand vous parlez du vote, vous avez parlé du choix politique, d'un choix politique noble, du geste noble en politique. Ben, peut-être qu'il y aurait à inventer des nouveaux gestes nobles en politique pour ne pas faire en sorte que le seul geste noble qu'on a en tête, ce soit le vote, à partir du moment où on en tire désormais plutôt des déceptions ces derniers temps. Parce que finalement, le geste politique, c'est une idée, mais en pratique, on peut, nous, l'inventer, nous, le mettre en pratique. Donc on n'est pas obligé de penser la noblesse du geste politique comme seulement associé au vote. Mais ça nécessite de l'imagination.
Une fois de plus, je suis d'accord avec toi, ça devient inquiétant. Non, après, il y a aussi quelque chose... c'est les logiques de continuité et de rupture. Alors, il peut y avoir des ruptures politiques, on en a subi quelques-unes, mais il y a aussi une continuité des pratiques administratives. Il y a une continuité d'opinion. il y a une continuité, une sorte d'assujettissement de la pensée. Et donc, à moins vraiment d'avoir un changement de régime brutal qui, en fait, entraîne une nouvelle politique brutale, et on sait très bien qu'aujourd'hui, en Europe, ça devient compliqué, et on voit très bien que toute forme de changement de régime brutaux, ou même s'ils sont par le biais des élections, sont immédiatement réprimés, c'est ce qui se passe en Catalogne. Donc, moi, je suis aussi une confiance toute relative. La seule façon d'agir, c'est d'agir en tant que citoyen, c'est-à-dire c'est d'agir sur la société, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure. C'est la seule façon, et quelque part, ces manifestations de résistance sont autant de signes d'une fébrilité aussi, quelque part. Parce que plus on résiste, et plus, quelque part, on sent qu'il y a quelque chose qui, pas qui enferme, mais qui devient lourd. Et ce qui se passe aujourd'hui est à rapprocher de ce qui se passe des années 30, même si les contextes sont différents, même si les enjeux sont différents, même si les idéologies sont différentes, etc. Parce qu'on assiste non pas, comme tu l'as très bien dit, à une crise migratoire, mais on assiste à une crise politique plus large. Et dans cette crise politique plus large, la question de l'hospitalité, la question de l'accueil, parce qu'on est tous ici, la France qui a posé la question tout à l'heure, la France dans les années 1910 et 1920 a été extrêmement assimilatrice. Elle a été assimilatrice dans son armée, pour des raisons pas forcément très, très voyables. Elle a été assimilatrice dans son industrie, elle a été assimilatrice dans ses campagnes. Ça a été une France d'assimilation. On est tous ici. Bon, ici, on est majoritairement espagnol. Mais si on va de l'autre côté, ils sont italiens. De l'autre côté, ils sont polonais. De l'autre côté, ils sont etc., etc. Donc, l'assimilation, elle a eu lieu en France. Mais c'était pas il y a 200 ans, c'était il y a 100 ans. Donc, effectivement, aujourd'hui, on n'est plus dans une politique d'assimilation. L'Europe n'est plus dans une logique d'assimilation parce que l'Europe est crispée face à des enjeux géopolitiques complexes. Donc, la question ne se réglera pas, je pense... Et quelque part, les formes de résistance que prennent aujourd'hui cette hospitalité montrent qu'il y a un problème beaucoup plus lourd, quoi.
Bon, je vais pas plaindre de ma situation, c'est pas grave. Mais on parle des citoyens qui votent. Dans le pays où je suis né, j'habitais jusqu'à l'âge de 6 ans, évidemment, j'ai jamais voté. J'ai eu une carte de séjour en France depuis 1984. Je ne peux pas voter. Mais ça, ce n'est pas grave. Mais je vous dis, bien sûr, je reste là, j'aime la France. Mais il y a des choses dans ma faveur. Mais non, je ne peux pas voter. Je regarde les télévisions, nul le français, tout le reste, fais ce que je veux, c'est non. Je fais deux demandes de nationalité, refusées. Bon, je vais faire une troisième, c'est pas grave. Mais, passe à autre chose. Ça, c'est pas important. Pour monsieur, je trouve que c'est un commentaire. Moi, je trouve que c'est très intéressant et tragique que le gouvernement de Léon Blum était, il me semble, très pour... Les républicains en Espagne, mais il n'a pas donné l'aide militaire et lui-même était déporté plus tard. Et à partir de 10 mai 1940, on peut dire le régime Vichy, mais point, la ligne, c'était nazi. Il n'y avait pas de choix. Et les choses ont changé. Bon. Il y avait l'aide personnelle, beaucoup de gens étaient aidés, la motivation individuelle. Voilà, c'est un commentaire, ce n'est pas une question. Pour madame, ce qui m'intéresse beaucoup, Ted Akoy, Tarn Agoron. C'est admirable, oui, c'est très bien. Mais vous n'avez pas fait un comparatif avec l'Aveyron et des autres régions, départements en France. Vous avez expliqué qu'il y avait un besoin de travailleurs. Bon, évidemment, il y a l'échange et aussi de bons amis, voilà, dans tout ça. Mais comment ça compare avec l'autre région de la France? Et pour le social. Donc non, c'est pas une question sociale. Mais moi, je me trouve gêné parce que je fais partie de pays européens, américains, des pays riches qui ont soutenu des dictateurs, des gouvernements pétroliers et Congo, et avec tout ce qu'il y avait exploité en faveur de G8, comme on veut. Et donc, après, pour moi, c'est nous, pas individuellement, mais nos gouvernements qui ont créé en sorte le fait que toutes ces réfugiés viennent ici. Et voilà, et c'est une contradiction désagréable pour moi qu'il faut vivre.
Juste sur Léon Blum, Léon Blum, il avait inventé une phrase magnifique qui s'appelait « la non-intervention relâchée ». C'est-à-dire qu'il était pour, mais en même temps, il disait « il faut pas froisser les Anglais, il faut pas ouvrir un nouveau front, etc. » Donc il a laissé passer les avions, etc., tout ça on le sait. Mais son ministre de la guerre, qui s'appelait Daladier, l'a très vite convaincu au nom du pacifisme que les périls étaient, étaient dans le nord et pas au sud. Après, vous avez raison sur le... la France a clairement abandonné l'Espagne et a fait venir ces gens-là. Si l'aide militaire avait été massive, peut-être qu'il y aurait eu autre chose. Hein, et par rapport à Pétain, il a été quand même élu hein, par les députés et les sénateurs. Voilà, donc faut quand même s'en rappeler. On n'a pas beaucoup de à Perpignan, on n'a pas beaucoup de choses qui sont valeureuses, mais nos quatre députés, je crois, sur les il y en a eu très peu qui ont voté contre, dont trois de Perpignan. Donc, voilà.
Ah oui, sur la question concernant le manque de comparaison, alors moi je dois préciser que je ne suis pas du tout historienne. J'ai beaucoup travaillé la question concernant les flux migratoires en Tarn-et-Garonne, mais voilà, au travers d'une expérience au cours des recherches. J'ai souvent été confrontée aux demandes d'indemnisation des victimes juives de l'expoliation ou les républicains, les descendants de républicains espagnols ou alors beaucoup de recherches généalogiques qui n'en sont pas vraiment, c'est-à-dire les gens qui souhaitent remettre en perspective les parcours de leur famille, souvent au moment des conflits. Voilà. Donc j'ai vraiment axé sur ce que je connaissais, à savoir les points locaux.
Bah, là, je crois que c'était un commentaire par rapport à votre gêne d'appartenir à un monde qui saccage le reste du monde et qui ensuite se trouve à devoir gérer des centaines de milliers de personnes qui fera passer à leur porte. Donc j'ai pas beaucoup d'éléments à vous apporter pour diminuer votre gêne.
Mais moi je vais jeter un pavé dans la mare, je trouve qu'il y a aussi une politique d'intégration qui existe. J'ai habité Belleville, j'ai habité à Paris dans les quartiers les plus défavorisés, j'étais enseignante. De 2000 à 2010, j'ai vu défiler des centaines et des centaines d'enfants, tous d'origine étrangère. J'avais souvent des classes de 22 enfants d'origine étrangère de toutes les origines, avec 2-3 petits Français de souche. Et j'ai pu assister à cela avec énormément d'admiration pour les gens autour de moi, c'est-à-dire les gens du quartier, des bénévoles, des associations, des centres d'accueil, vraiment une solidarité de quartier à Belleville. Après, il y avait des problèmes intercommunautaires. Ça, c'est vrai. Mais au niveau de l'intégration des enfants, et j'ai pu le constater ici dans le Tarn-et-Garonne parce que je travaille comme bénévole dans le CAO de Parisot, il se passe quelque chose d'assez fabuleux. Il faut voir la génération qui arrive après. Alors après, il y a l'égalité et l'illégalité. On a cette chance en France de pouvoir accueillir tous les enfants. Moi, j'avais des petits élèves asiatiques qui n'étaient pas du tout, de parents avec des papiers. C'était des enfants, on savait qu'ils étaient inscrits par le tonton, et puis voilà, hein, on ne se posait pas de questions, parce que c'est un devoir d'accueil. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on ne peut pas critiquer l'État dans la mesure où cette école républicaine et laïque, elle intègre. Dans une réalité que j'ai vécue après, c'est autre chose aujourd'hui. Mais on peut quand même constater dans les CAO, dans les CADA, à chaque fois qu'on voit des enfants, qu'ils vont aller à l'école
directement et que souvent la génération d'après, si les parents ont la chance d'avoir l'asile, effectivement il y a un phénomène qui se passe. Et j'ai entendu quelque chose qui se passait en Suède aujourd'hui qui m'a fait très peur, c'est qu'effectivement en Suède il y a eu 350 000 immigrants qui sont arrivés sur une population de 10 millions d'habitants. Donc nous en France on est vraiment tout petit à côté hein, au niveau du pourcentage d'accueil. Et les gouvernements d'opposition, d'extrême droite réagissent d'une façon violente. Bon, c'est là-dessus je pense qu'il faut vraiment s'interroger, à mon avis. C'est sur les réactions par rapport à cet accueil existant, même s'il est parfois défaillant, on est bien d'accord.
Ben, pour ma part, je trouve que vous avez bien fait de jeter le pavé. Je trouve très bien de rappeler aussi les expériences vécues positives dont on peut tirer des leçons et éventuellement des envies de faire, d'agir pour la suite. Après, moi, une question qui me travaille beaucoup à la fois en tant que citoyenne et en tant que sociologue, c'est comment le système des pouvoirs publics, l'ensemble des pouvoirs publics, qui inclut aussi l'école laïque et républicaine, exclut tout un tas de personnes qui ne peuvent pas bénéficier de ce type d'accueil-là. Parce qu'en fait, vous avez eu l'occasion de voir des jeunes, des enfants qui ont pu être scolarisés, à qui on a laissé éventuellement terminer leur scolarité, dont les parents ont éventuellement eu par la suite le statut d'asile ou pas. Bon, enfin, je suppose qu'il y a eu des cas différents. Mais en fait, malheureusement, l'État et les institutions publiques font aussi en sorte, et de plus en plus depuis 2015, donc depuis l'augmentation du nombre de demandes de protection internationale, font aussi en sorte d'exclure des personnes qui pourtant sur le papier auraient le droit d'intégrer l'école. Je parle par exemple des mineurs non accompagnés. Là, bon, voilà, on connaît les difficultés des conseils généraux de l'ASE à gérer un flux qui est en augmentation. Je pourrais vous parler du cas de Toulouse. J'en connais beaucoup de jeunes qui seraient encore dans l'obligation d'être scolarisés et qui n'ont pas du tout le moyen de rentrer dans le système, qui n'ont pas d'hébergement, à qui on ne peut pas ou on ne veut pas proposer des solutions. Et c'est des enfants qui dorment à la rue au lieu d'aller à l'école, vous voyez, et qui ont 15 ans, donc ils sont encore en obligation d'être scolarisés, par exemple. Et là, j'ai pris un exemple qui fait consensus parce qu'on parle de mineurs, etc. Mais à mon avis, enfin, ça vaudrait le coup de se questionner aussi sur les catégories que les institutions construisent comme étant les catégories légitimes parmi les majeurs. Parce qu'il y a un tas de services qui sont inaccessibles à beaucoup, beaucoup de personnes, seulement parce que la personne est majeure et parce qu'elle ne peut pas rentrer dans un système de protection qui inclut des soins de santé, par exemple.
Oui, concernant les mineurs non accompagnés, alors je ne me fais pas du tout le champion, enfin la championne de la collectivité, juste pour vous dire que c'est un réel problème, mais qui viennent uniquement d'une volonté politique. Hein. Effectivement, il y a des conseils départementaux en France qui, lorsque le président du département a la volonté d'accueillir, ben, on met les moyens. Malheureusement, tout le monde sait que le nerf de la guerre, ben, c'est l'argent. Et en fonction de la volonté, on met des moyens ou pas. Aujourd'hui, ce que je vous ai pas dit dans le cas des mineurs non accompagnés, c'est que la plupart d'entre eux sont confiés à des familles d'accueil et qu'on est en un flux tendu qu'on n'arrive plus à recruter. Dès que quelqu'un est agréé dans le département, on le recrute et s'il a un agrément, on lui confie 2 enfants, etc. C'est vraiment voilà. Donc c'est une vraie question et qui, d'un point de vue éthique personnelle, m'interpelle, hein, parce que moi je suis chargée de trouver des places d'accueil et je vous assure que ça semble rien du tout, hein, quand dans une semaine je sais qu'il y a 5 enfants qui nous sont confiés, c'est panique à bord parce que qu'est-ce qu'on va en faire? Ça devrait pas être le cas, c'est 5 enfants, quoi. C'est, voilà. Mais ça me questionne vraiment. C'est une préoccupation, voilà. Et je me dis dans ces cas-là, effectivement, les 450 000 ou 500 000 ou voire 530 000 républicains espagnols, ben on s'est pas posé ce genre de questions, voilà. Voilà. Et pour vous dire aussi qu'il existe la possibilité de, pour chaque individu qui souhaiterait accueillir un jeune, hein, il existe des conventions de partenariat, de parrainage. Voilà. Donc à titre personnel, n'importe qui peut accueillir un mineur non accompagné et dans le cadre d'un parrainage. Voilà.
Et justement, pour par rapport à ce que vous venez de dire. Où faut-il s'adresser si on a l'intention de parrainer un enfant et de s'en occuper?
Alors tout simplement, vous vous adressez au service jeunesse de la direction départementale, de la solidarité départementale.
Et qui se trouve à
Qui se trouve au 7 allée Mortarieux.
Mortarieux, d'accord.
Voilà. Okay,
bon, merci. Juste, je voulais dire, vous parliez, monsieur, d'assimilation, qui était...
J'ai utilisé le terme assimilation.
Oui, vous avez dit, enfin, que les...
Non, intégration, j'ai dit. Donc pas...
Vous n'avez pas dit assimiler, si.
Alors, j'ai fourché intégration, plutôt.
Ah, oui.
Excusez-moi.
Parce que,
assimilation, c'est pas...
Moi, j'ai entendu que les Espagnols, les Italiens, etc., avaient été assimilés. On a assimilé beaucoup.
On a été intégrés, plutôt.
Bon, on a été intégrés.
Excusez-moi.
Ils ont donc été intégrés, d'accord. C'était une époque différente. C'était l'Europe. C'était des civilisations qui nous ressemblaient. Est-ce que le problème actuel, alors, avec des politiques différentes, mais il y avait peut-être une unification davantage entre les peuples qu'il peut y avoir à l'heure actuelle. Il y a peut-être moins de peur quand les gens, on ne peut entendre tout et n'importe quoi à l'heure actuelle. Est-ce que en dehors du fait qu'il y a des guerres dans les pays, des gens qui sont à nos frontières à l'heure actuelle aujourd'hui, ce sont aussi des gens qui sont encore plus loin de nous. Est-ce que le problème des flux migratoires à l'heure actuelle ne viennent pas aussi de là? Est-ce que les gens ont peur de l'autre, encore plus maintenant, parce que justement il y a une méconnaissance de l'autre, des autres peuples. Est-ce que il n'y aurait pas un travail aussi à faire pour l'intégration de ces peuples-là, de la connaissance de ces gens-là? Que font les religions? Que fait l'Église, par exemple, qui prône la solidarité, soi-disant, enfin les religions, que font-elles pour à l'heure actuelle? On entend uniquement, quand on parle d'immigration, que de haine de l'autre, de travail qu'il n'y aura pas pour l'autre, de gêne, que des termes négatifs. Donc comment on peut espérer? Est-ce que vous êtes optimiste? Moi, je suis pas du tout optimiste parce que je trouve que c'est de pire en pire. Et cette haine de l'autre me révolte énormément. Et que faudrait-il faire pour que ça s'améliore?
Alors, vous avez, enfin, donc, l'intégration, donc, surtout parce qu'on a fait appel à eux. Hein, parce
mais je que, sais bien qu'on a fait appel à eux.
On a parce fait appel à eux, mais
oui,
par
on avait,
contre...
On avait besoin d'eux. Hein,
par contre, ils posaient pas problème.
Mais non.
Enfin, si. La question, en fait, je rebondis sur ce que tu as dit, c'est la question des catégories. Les catégories, ça sous-tend qu'il y a des perceptions genrées. Voilà. On catégorise parce qu'on genre. Et quand on genre, un genre, c'est une perception. Et effectivement... Quand est-ce que ça a bloqué dans les années 30? Ça a bloqué avec l'arrivée des réfugiés politiques. C'est-à-dire que c'était non pas des réfugiés économiques qui venaient, il y avait du travail, etc., etc. Mais c'est parce qu'il y avait un risque, chez certains, qu'ils importent en France des troubles qui étaient à l'extérieur de la France et qui participent à une forme d'agitation qui allait mettre à mal ce qu'on pourrait appeler le modèle national. Le vivre ensemble. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Les peurs, elles sont alimentées par cette espèce d'idée que les migrants ou une partie des migrants peuvent importer des idéologies, etc., etc., qui pourraient mettre à mal tout un tas de choses. Donc la vraie question du blocage et du rejet de l'étranger, du rejet spatial de l'étranger, c'est la perception qu'on s'en fait. Et effectivement, aujourd'hui, on peut interroger le travail des médias, le travail des intellectuels, etc., sur justement pour apprendre à connaître, à connaître l'autre. Et quelque part, les formes de résistance, c'est qui c'est les résistants, c'est des gens qui croient justement que parmi les gens qui arrivent, ce sont des gens qui vont être, on va dire, bienveillants, ou en tout cas qui vont participer à une France qui va se développer, etc., etc. Et je voulais juste dire quelque chose, moi, par rapport à l'hospitalité, c'est que il y a deux formes d'hospitalité, hein. Il y a l'hospitalité d'urgence, hein, celle qui vous avez votre voisin, la maison prend feu, ou il y a une inondation dans votre village, et puis vous allez aider. Ça, c'est l'aide. Hein. Vous allez ouvrir votre maison, etc. Et après, il y a l'engagement. Et l'historien ou les historiens, quand ils travaillent sur des personnes qui ont aidé des étrangers, sauvé des enfants, etc., ils s'aperçoivent que c'est pas du, excusez-moi du terme, en anglais, du one shot, comme on dit, du un coup, quoi. On s'aperçoit qu'il y a un parcours, souvent un parcours politique, il y a une éducation, et que l'engagement, il continue bien après. Avec d'autres populations, avec d'autres catégories, etc., etc., etc. Donc, voilà, je voulais juste dire ça. Mais et puis sur la perception des étrangers, effectivement, la perception genrée, voilà.
Bon, moi, je ne vais pas rajouter beaucoup de choses, mais peut-être une des choses qui m'est venue à l'esprit en écoutant d'abord votre question et ensuite la contribution du collègue, c'est que dans l'histoire, il y a toujours eu des étrangers dont on se méfiait, dont on avait peur, parce qu'on les percevait comme spécifiquement et particulièrement différents, inconnus et donc angoissants de par leur altérité. Je pense par exemple aux Italiens, parce qu'aujourd'hui, on dit que les Italiens du 19e étaient plus facilement intégrables parce que les mœurs étaient plus proches des mœurs françaises, etc. Mais à Aigues-Mortes, ils ont été exterminés parce que on estimait qu'ils étaient dangereux, différents, qu'ils avaient des mœurs douteuses. Voilà, donc hier, c'était les Italiens. Enfin, avant-hier, c'était les Italiens, hier, c'était les Maghrébins, aujourd'hui, c'est des personnes probablement de confession musulmane, mais qui peuvent venir de plusieurs pays différents, parce qu'on y voit toujours un degré d'altérité supérieur à celui qui nous semble être le seuil de tolérance pour ne pas avoir peur de l'autre. Mais ce seuil de tolérance change selon les époques et touche, ou a touché dans le passé, des populations qu'aujourd'hui on perçoit comme tout à fait intégrables ou similaires du point de vue de notre culture. Donc c'est là aussi, moi je pense, un travail d'alerte sur soi permanent qu'on doit avoir. Parce que c'est facile de... Enfin, c'est facile. On peut se laisser prendre par la tentation d'avoir peur d'un autre qui nous est présenté comme particulièrement différent et donc dangereux. Mais c'est à nous, en fait, de se demander si il est particulièrement différent ou dangereux. Et là, on peut effectivement avoir la curiosité d'aller voir qu'est-ce qui se passe en Érythrée pour savoir si l'Érythréen que j'ai croisé dans la rue peut avoir vécu telle et telle chose. Et c'est en connaissant, en fait, la réalité aussi d'autres personnes qu'on peut avoir moins peur d'eux. Je pense, enfin, c'est une des possibilités qu'on a pour essayer de maîtriser cette potentielle psychose vis-à-vis de l'autre, quoi.
Je vais juste vous raconter une petite histoire. Moi, je viens de Perpignan et quand j'étais petit, il y avait à mon école, il y avait beaucoup de Sanchez, Pérez, Rodriguez, etc. Et j'avais entendu ces Espagnols de merde, hein, qui viennent manger le pain des Français. Vous l'avez tous entendu ici. Et puis, en fouillant les archives, un jour, je suis tombé sur un courrier du préfet des Pyrénées-Orientales, qui était étranger lui-même, hein, parce qu'il était polonais, et il a fini dans un camp. Bon, un parcours un peu compliqué, mais bon, bref. Et il se plaint au ministre de l'Intérieur, je vais vous expliquer pourquoi, et il lui adresse une série de lettres anonymes. Alors, dans les courriers, tout d'un coup, on voit qu'à partir de la déclaration de guerre, se multiplient les courriers de plaintes qui viennent des campagnes du Pyrénées orientales, sur les étrangers, sur ces Espagnols de merde qui mangent le pain des Français. Pourquoi ? Parce que, outre la question de l'altérité, il y a aussi une question du contexte dans lequel on vit et d'une question d'un degré d'angoisse dans lequel on vit. Plus la société est anxiogène, plus on rejette. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre 1939 ? Ça y est, bim, Hitler, paf, la guerre, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Les hommes de 18 à 40 ans, tous, hein, partent au front, sont mobilisés. Et les Espagnols, alors il y en a qui sont mobilisés dans les compagnies de travailleurs, etc., mais il y en a beaucoup qui bossent dans les fermes, parce qu'ils sont, etc. Et donc ils se retrouvent quoi ? Tout seuls dans des villages, avec quoi ? Des dames, des jeunes femmes. Et puis qu'est-ce qu'ils font ? Hein, en général, ils sont souvent jeunes, ils ont entre 20 et 30 ans, et puis le bel Andalou, le Catalan ténébreux, auréolé de cette image de guérilleros qui a fait la guerre, etc., ben, ils vont au bal, ils vont dans les bistrots, et puis ils draguent les filles, et puis... Et là, le préfet reçoit une avalanche de courriers. Regardez, pendant que nos maris, nos fils sont au front, ces Espagnols de merde qui se prélassent au soleil, etc., etc. Et on voit bien que la tension à l'égard des Espagnols, il y avait une peur du rouge avant qu'on connaît maintenant. Mais là, tout d'un coup, il y a une tension qui ressurgit parce que le moment est anxiogène. Parce que, justement, les gens ont peur. Et que ces Espagnols, eh ben, ils incarnent quoi ? Ils incarnent, en plus des rouges, ils draguent les filles. Et à tel point, c'est la fin de l'histoire, que le préfet qui adresse tous ses courriers et un rapport circonstancié à son ministre, publie un arrêté interdisant de bal et de débit de boisson les réfugiés espagnols dans les Pyrénées orientales. Voilà.
Moi, j'ai une anecdote similaire. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'attitude de la ville de Moissac, enfin, certaines de ses administrés. Et en fait, alors que pendant toute la guerre, ça n'avait pas bronché, pas une dénonciation, etc., à la libération, commencent les courriers anonymes disant « c'est inadmissible, les éclaireurs israélites de France qui se trouvent à la ferme de Chari ont de quoi manger et nous on se serre à la ceinture, c'est dégueulasse ». Enfin voilà, c'est exactement le même ressort. Hein.
Une question. J'aimerais savoir ce qu'est l'assimilation pour vous, ce qu'est l'intégration et quelle est la forme la plus parfaite ou la plus aboutie de l'accueil.
Ça s'adresse plutôt à la sociologue. Oui. Alors, je peux donner des précisions terminologiques sur la base de ce qui a été le jargon des institutions politiques françaises en matière d'assimilation et d'intégration, puisqu'il y a eu un grand virage terminologique, on va dire, à la fin des années 80. Parce que jusqu'à ce moment-là, le terme de assimilation était très en vogue et impliquait le devoir de l'étranger accueilli en France de faire la preuve d'un rapprochement culturel, de mœurs, etc., vis-à-vis de la population majoritaire. On s'attendait de lui à qu'il devienne plus semblable. Et donc, on parlait de la France qui assimile parce que, notamment grâce à l'école républicaine, on permettait à tout enfant d'apprendre le français et que c'était un élément justement pour rapprocher des personnes issues de cultures différentes. À la fin des années 80, on commence à entendre de plus en plus le terme d'intégration parce que certains élus, notamment, sollicitent entre autres des sociologues, des linguistes, des historiens, etc., sur la question de, à l'époque encore, assimilation. Et puis, on tend vers une conception de ce rapprochement où on considère que la société d'accueil a aussi une responsabilité dans ce rapprochement qui implique aussi qu'elle se doit de faire un pas vers l'autre et qu'on n'attend pas seulement de l'autre qui se rapproche, qui deviennent plus semblables de nous. On essaye de mettre en place, par exemple, des dispositifs dits dans les années 90 d'intégration, mais qui impliquent du coup une sorte de va-et-vient entre la culture majoritaire et celle des personnes qu'on a envie d'accueillir sur la durée, sur une durée un peu moyenne longue, quoi. J'ai répondu ? C'était ça la question, non ? Assimilation, intégration ? Ah oui, après, il y avait la question à 100 millions de dollars. Quel est le modèle le plus performant de... Si on reste sur la thématique, parce que j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose. Alors, l'insertion, pour le coup, fait référence à quelque chose d'un peu plus spécifique parce qu'on l'utilise, du moins dans le jargon des institutions publiques, pour faire référence à l'insertion professionnelle. Donc, plutôt à dans une logique de intégration par le travail qui a été une des valeurs chères des gouvernements socialistes. Voilà. Et qui a fondé un peu les politiques migratoires des années 70, quand on a fait venir principalement de la main-d'œuvre étrangère, parce que c'était déjà un besoin économique du pays, mais qui était justifié, du moins théoriquement, par cet attachement au travail comme à une valeur fondatrice de la société, où chacun peut contribuer au bien-être collectif, et par ailleurs justifié de pouvoir accéder aux prestations sociales, donc à une forme d'entraide par les politiques sociales, quoi, qui sont financées principalement par le travail. Je voulais pas éluder la question qui tue. Juste, peut-être ça me permet de revenir sur mon point principal lors de ma présentation, parce que je suis convaincue que une amélioration sociétale dans ce qui sont nos liens sociaux transversaux à la communauté nationale et aux personnes d'une autre nationalité récemment arrivée ou anciennement arrivée, peu importe, soit plutôt un mélange d'accueil institutionnel et d'engagement personnel des individus qui composent la société. Et même j'aurais tendance à investir, si je pouvais, moi, provoquer ce changement, investir davantage sur un changement de posture individuelle et collectif, mais pas forcément directement connecté aux services institutionnels relevant de l'accueil.
Juste par rapport à l'assimilation, effectivement, tu l'as brillamment dit, qui est un terme qu'on n'utilise plus, elle a quand même été une assimilation aussi qui a favorisé des classes et qui a assimilé quand même par le bas. Si on prend les vagues migratoires, là je parle de mon époque, hein, des années 30, des années 40, on s'aperçoit qu'il y a un déclassement et qu'il y a quand même un bannissement dans la société. Et si on prend la génération des Espagnols, par exemple, de la retirade, on s'aperçoit que c'est les enfants qui réussissent. Alors que c'était des gens qui avaient une éducation, qui savaient lire, écrire, etc., etc., etc. Donc qui n'auraient eu aucun problème à. Mais il y a quand même eu une assimilation qui a été quand même d'abord qui a été une exclusion et qui pendant longtemps a porté quand même les germes d'une exclusion, même si les papiers ont été donnés progressivement, etc., etc. Il faut quand même savoir que l'État français a continué à déporter des Espagnols, enfin à bannir jusque dans les années 50 avec la fameuse opération Bolero Paprika qui visait à éloigner de métropole des communistes. Alors la police a toujours des noms poétiques, hein, Bolero Espagne, Paprika Rouge, donc Rouge Espagnol. Donc voilà, il faut faire attention dans cette logique d'assimilation qui a été pendant longtemps un modèle où on s'est évertué à dire qu'il y avait une forme. Ça a été aussi en tout cas sur les populations sur lesquelles j'ai travaillé, ça a été quand même une assimilation qui avait valeur de déclassement relativement massif.
On va prendre les deux dernières questions et puis après je pense qu'on va pouvoir clôturer la soirée.
Enfin, moi, je voulais juste remettre en perspective par rapport à la question de la peur, des conditions et de la représentation des personnes. Et on va faire juste un petit saut quantique dans quelques années. Et il y a une catégorie dont on parle pas, qui est pas du tout affirmée, qui s'appelle les réfugiés écologiques. Et je vais prendre l'exemple du Bangladesh, qui va perdre 30% de son territoire, enfin 20% de son territoire, ce qui fait à peu près 30 millions de gens. Qui vont devoir soit se noyer, soit aller en Inde, soit aller en Birmanie, qui sont des pays particulièrement accueillants, comme on le sait tous. Et on va, là, on a encore beaucoup de latitude, je crois, pour discuter de questions, excusez-moi sans vouloir être jugeant, mais qui peuvent sembler, dans la perspective de ce qui va arriver, un peu futile sur la question de l'insertion, de l'intégration, de l'assimilation. Mais quand on va avoir 30 millions de gens qui vont frapper aux portes de l'Europe et qui vont risquer leur vie, et que l'angoisse écologique qui est déjà présente sera d'autant plus agrandie, on n'aura plus l'occasion ni le temps de se poser ces questions-là. Et effectivement, je pense qu'il y a une question aussi d'urgence à la conscience. Parce que c'est un intervalle encore réduit, mais qui se réduit comme peau de chagrin, je le crains.
Je crois que l'ONU travaillait sur la question du statut de réfugié climatique, au sens de réfugié...
En fait, aujourd'hui, tout ce qui est donné comme réponse au niveau des... Enfin, là, je parle de ce que je connais beaucoup mieux qu'est l'Europe, c'est qu'en ce qui les concerne, les réfugiés climatiques restent des réfugiés économiques dans la mesure où ils considèrent qu'ils donnent suffisamment d'aide à l'intérieur des pays pour l'adaptation sur le territoire.
Mais il y a bien une réflexion en cours.
Il y a une réflexion au niveau de l'ONU, mais c'est le UNHCR qui, en fait, se bat seul. En fait.
Ce soir, il y a un mot qu'on n'a, je crois, jamais employé, et pourtant qui était sous-jacent, c'est le mot « identité ». Qui en France fait peur, et je crois que c'est un mot très important dans le sens où on s'adresse à des questions d'identité, c'est-à-dire je crois que un des problèmes très forts qui existent, pas seulement dans les questions des migrants, mais aussi dans les questions du voisinage, de la collectivité, de la communauté, c'est le fait que dès l'instant où l'on reste purement statique, purement contemplatif, et nous le sommes tous, l'un à un moment ou à un autre, il y a des écarts dans l'identité qui nous font très peur. Or, lorsqu'on peut rencontrer l'autre, lorsqu'on peut dépasser des difficultés, lorsqu'on peut remettre la machine sur les rails, lorsqu'on peut créer, eh bien, ces écarts dans l'identité, ils s'évanouissent pratiquement. Donc, ce que je crois, c'est que souvent, il y a des questions morales, politiques, idéologiques, mais il y a aussi des questions de... On croit que c'est pas possible. On croit qu'on n'y arrivera pas. Or, vous connaissez certainement le grand documentaire sur Riace, qui montre que là, il y a des écarts sur le pays de Calabre, un village qui s'est refait avec les immigrants. Et là, on voit que les écarts dans l'identité les plus absolus ont été peut-être pas résolus, mais enfin, en tout cas, travaillés. Et on voit, par exemple, dans une fête traditionnelle religieuse catholique, des Afghans ou des Kurdes qui dansent la tarentelle au milieu de la fête la plus ancienne et la plus traditionnelle du village. Donc, une fois qu'on a vu ça, on peut se dire que tout est possible dès que l'on est dans l'action. Et donc, je crois que ça, c'est un problème essentiel. Et souvent, il y a une question concernant le vote, qu'on ne va pas diaboliser, mais qui parfois nous inquiète du Front National, dans des zones comme le Tarn-et-Garonne, où des fois il y a plus de 50% des villages qui votent Front National. Et je crois qu'il y a une explication qui est donnée parfois par le fameux sociologue, je crois, ou géographe plutôt, Christophe Gulli, qui parle de zones de relégation. Alors, je pense que Christophe Gulli doit avoir des arguments, mais je crois que c'est pas très convaincant, l'explication de Christophe Gulli. Je crois qu'une des motivations du vote Front National, c'est la peur, non pas de l'étranger, mais du voisin. Parce qu'on ne se connaît pas entre voisins. Et on voit que, par exemple, dans le pavillonnaire, le résidentiel, il y a des votes Front National très, très, très élevés qui viennent, je crois, tout simplement du fait que les gens ne se connaissent pas et ont peur de l'autre. Je ne parle pas de l'immigré, je parle du Toulousain ou de l'agriculteur du coin. Donc, ça veut dire que si on travaille le lien, on résout presque tous les problèmes.
Voilà. Une question beaucoup plus, comment dire, pas matérielle, mais je voulais savoir, pour accueillir ces jeunes, est-ce qu'il y a des limites d'âge pour les foyers? Comment ça se passe?
Alors, concernant les mineurs non accompagnés, et, bien entendu, il y a une limite d'âge qui est celle de 18 ans s'ils ne sont pas pris en charge avant leur...
Pour les accueillants?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucune limite d'âge. Il suffit de vous mettre en relation avec le service jeunesse. Ils vous diront comment fonctionnent ces partenariats. Et voilà. Non, c'est un contrat de parrainage, en fait. Hein. C'est vous vous engagez à parrainer un, deux, trois jeunes en fonction de vos capacités, de vos capacités d'accueil, j'entends, hein, une chambre, un enfant, et à partir de là, on, on vous demande de le prendre en charge, de l'accompagner dans toutes les démarches. Quand ils arrivent, ils ont des démarches à faire, hein, évaluation scolaire, nécessité de voir s'il y a des soins à mettre en place, etc., etc. Et puis après, très vite, ils sont scolarisés et ils s'intègrent. Parce que tous ces jeunes-là enfin moi, c'est mon sentiment, c'est par là que je suis comme vous tous, hein, un peu dubitative, mais je me dis que quand même, ça a toujours fonctionné comme ça. Ces jeunes-là, c'est la société de demain, et c'est eux qui vont la former, et c'est eux qui vont faire évoluer le regard et le voilà. Donc, je vous remercie tous et je tiens vraiment à remercier Grégory Tuban et Annalisa Leandro pour la qualité de leurs interventions qui ont vraiment été remarquables, de leur disponibilité et l'écoute qu'ils ont eue. Voilà. Et puis, je vous invite à aller... vous avez donc un stand... avec la, dans lequel vous trouverez des ouvrages concernant la thématique qui a été évoquée ce soir et en particulier les ouvrages de nos intervenants. Merci.